Donc, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Le Cheikh, aujourd'hui, le cours, c'est le cours numéro 22, dans le livre de Kitab al-Tawhid, l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala. Et on est arrivé donc, on est toujours dans le chapitre Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le chapitre du mérite du Tawhid et ce qu'il vient expier comme péché. Et on a commencé, donc on commence par la citation, à la suite de ce qu'on lisait hier, la citation de Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Et il dit « Al-ilahu huwa alladhi yuta'u fala yu'sa haybatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alayhi wa su'alan minhu wa du'a'an lahu wala yasluhu dhalika kullihi wala yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi azza wa jal. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. Donc la parole de Ibn Rajab, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici qu'il est tiré d'un livre de Ibn Rajab qui s'intitule Tafsir Kalimat al-Ikhlas ou bien Kalimat al-Ikhlas. Donc c'est un livre qu'il a écrit et qui est publié, qui est très bénéfique. Donc il dit on devrait tous se procurer ce livre. Il dit ensuite, par rapport à la parole de Ibn Rajab, que la divinité, c'est celui qui est obéi et à qui on ne doit pas désobéir par respect pour lui, hein, par exaltation et vénération pour lui, par amour et par crainte, par espoir et en mettant notre confiance en lui et en posant en lui demandant ce dont on a besoin, en demandant qu'à lui et en invoquant que lui. Et tous ces actes d'adoration là, ils doivent uniquement être voués à Allah seul. Donc quiconque associe en offrant à une créature quelconque une de ces formes d'adoration qui font partie des choses qui sont exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala et qui font partie de son droit exclusif à l'adoration, eh bien celui qui associe ou qui fait du shirk en adorant quelqu'un d'autre que Allah et en offrant à autre qu'à Allah une forme quelconque d'entre ces adorations là, eh bien il a détruit son ikhlas, il a détruit son tawhid dans la parole de la ilaha illallah, parce que la ilaha illallah signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc il aura du shirk et il se sera soumis et il aura adoré une créature selon ce qu'il a commis par rapport à la contradiction qu'il a eue par rapport à cette parole. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique donc les détails de cette citation de Ibn Rajab, et il explique donc Al-ilahu huwa alladhi tusrafu lahu al-ibada bi jami'i anwa'iha wa minha al-khawf wal-raja wal-rahbatu wal-rahba wal-dhabh wal-nadhr wa sa'ir al-ibadat. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui seul qu'on doit vouer toutes nos adorations dans toutes les catégories d'adoration, que ce soit les adorations du cœur ou les adorations du corps. Et parmi les adorations qu'il a citées, la crainte, on ne doit craindre que lui et avoir espoir qu'en lui et n'avoir peur que lui et n'aimer que lui et ne sacrifier, faire un sacrifice. Si on sacrifie un animal, on doit le faire que pour lui, et si on fait un vœu pieux, on doit ne faire de vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même que toutes les adorations qu'on fait, la prosternation, la prière, le jeûne, le hajj, la salat, toutes les formes d'adoration qu'on fait, on doit le faire que pour Allah. Et on doit vivre pour Allah seulement. Tout ce qu'on fait dans notre existence, dans notre vie, on devrait uniquement le faire pour Allah. Ensuite, par rapport à la suite de la citation, il dit, donc, en mettant notre confiance en Allah et en ne demandant qu'à lui et en faisant des invocations pour lui, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, فَلَا يُسْأَلُ إِلَّا هُوَ. On n'a pas le droit de demander à personne quoi que ce soit excepté à lui. Hein? Par rapport à cette parole, il faut comprendre bien entendu que c'est le fait de demander des choses que seul Allah peut faire. Hein? Donc on n'a pas le droit de demander à quiconque des choses que seul Allah est capable de faire. On n'a pas le droit de les demander à personne d'autre qu'à Allah. De même que on n'a pas le droit d'invoquer ou de demander d'autres à d'autres que Allah, par exemple, des statues ou des idoles ou une autre divinité, hein, d'invoquer quiconque en dehors d'Allah. Et on n'a pas le droit non plus d'invoquer ou de demander à quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent de nous venir en aide ou de nous aider ou quoi que ce soit de ce genre. Par contre, si on demande à quelqu'un qui est présent et qui est vivant quelque chose qu'il peut faire pour nous et qu'il est capable de faire, ça c'est pas du shirk. Le shirk, hein, c'est dans les cas que j'ai mentionnés, de quelqu'un qui demanderait à une personne de lui donner quelque chose que seul Allah peut donner. Comme par exemple, tu demandes à quelqu'un par exemple de faire vivre les morts ou bien de faire tomber la pluie ou bien de te donner le rizq ou bien de te guérir, ou des choses comme ça. Tu demandes à une tombe ou à un mort, hein, ou à une personne qui est absente. Tu demandes des choses comme ça. Ça, c'est du shirk. Toutefois, si tu demandes à quelqu'un qui est à côté de toi, tu dis, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau? Ça, c'est pas du shirk, hein. Parce qu'il y a des soufis, parfois, ils utilisent des arguments comme ça. Ils disent, de demander au wali, ou de demander au prophète, ils disent, ça, c'est pas du shirk, parce que, sinon ça voudrait dire que si tu demandes à quelqu'un un verre d'eau ou quelque chose comme ça, ça serait du shirk aussi. Et ils ne font pas la différence entre quelqu'un qui est vivant et qui est mort, et entre quelqu'un qui est présent et quelqu'un qui est absent. Et ils ne font pas de distinction non plus entre le fait de demander quelque chose que quelqu'un est capable de faire et quelque chose que tu demandes que seul Allah est capable de faire. Donc, ce genre d'excuses ou d'arguments, c'est complètement faux. Également, on n'a pas le droit de craindre personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire que la crainte, quand on parle de la crainte ici, c'est la crainte qui est une crainte d'adoration. Hein, comme les mouchriquines qui ont peur de leurs idoles, ou qui ont peur d'insulter ou de dénigrer leur statut. Hein, ou bien ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou bien les soufis par exemple qui ont peur de leur cheikh, ou quelqu'un qui a peur des djinns, ou qui a peur des sorciers, ou qui a peur du sihr ou des choses comme ça. Il y en a qui a peur des choses invisibles. Cette crainte là elle doit être uniquement vouée à Allah seul. Donc le croyant, il ne doit pas avoir peur de rien d'autre excepté Allah de cette façon. Toutefois, si quelqu'un par exemple il a peur de quelque chose qui peut lui faire un mal de façon concrète et qui est présente, comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un voleur qui rentre chez lui, ou qui a peur d'un chien qui veut l'attaquer, ou quelqu'un qui a peur d'une abeille ou de quelque chose qui peut le piquer, ou d'un serpent. Ça, c'est pas du shirk, hein. On parle pas de cette catégorie de crainte, parce que ça, c'est une crainte qui est naturelle. Et la crainte naturelle, c'est pas une adoration, hein. Qu'est-ce qu'on parle de, qu'est-ce qui est shirk dans la crainte? C'est le fait de craindre d'une crainte qui est, dans une crainte d'adoration. Et une crainte de quelque chose qui est invisible. Donc, si tu crains d'autre que Allah dans ça, alors ça serait considéré comme étant du shirk. Et de toute façon, il y a un chapitre qui vient dans Kitab al-Tawhid au sujet de la crainte et au sujet du dua. Donc, pour chaque sujet de ces adorations-là, il y a un chapitre qui arrive dans Kitab al-Tawhid plus loin, qui détaille toutes les questions sur chaque point de ces sujets-là. Donc, on va en parler de façon élaborée dans les cours plus tard. Et le Cheikh, il dit, wala yurja illa huwa. tu dois pas avoir mettre ton espoir en personne excepté en Allah. Wa la yud'a illa huwa, et tu ne dois pas invoquer et implorer personne excepté Allah. Tout ça, ça rentre dans la signification de la ilaha illallah. Hein? Kullu hada dakhilun fi ma'na la ilaha illallah. Wa man da'a ghayra Allah aw dhabaha li ghayri Allah aw nadhara li ghayri Allah فإنه قد صرف العبادة لغير الله عز وجل ولم يكن مخلصا لله عز وجل وإن كان يعبد الله بأنواع العبادات ما دام أنه يعبد معه غيره فعبادته لله باطلة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، فإنه سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que quiconque a fait des dua à autre que Allah, ou il a fait des sacrifices d'animaux pour autre que Allah, ou qui a fait des vœux pour autre que Allah, il fait des vœux pieux, demande à autre qu'Allah, ou bien il offre une forme quelconque d'adoration à autre qu'Allah, alors dans ce cas-là, il n'a pas été mukhlis envers Allah, il n'a pas été pur envers Allah, il n'a pas été sincère envers Allah. Il n'a pas purifié son adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah seul. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est même s'il a, même si dans d'autres choses qu'il a fait, ou d'autres adorations, il adorait que Allah, mais du moment qu'il a offert certaines adorations à autre qu'Allah, alors dans ce cas-là, il a commis le shirk. Et son œuvre en entier sera vaine. Hein? Parce que il a adoré d'autres avec Allah. Donc même si certaines de ses adorations étaient pures, étaient sincères pour Allah seul, mais qu'en même temps il a fait d'autres adorations par la suite qui sont pour d'autres que Allah, eh bien, toutes ses œuvres sont vaines, toutes ses adorations sont rejetées au complet. Pas seulement celles qui a du shirk dedans, mais même celles dans lesquelles il n'y avait pas de shirk, elles sont rejetées aussi. Pourquoi? Parce que il a fait le shirk, et le shirk annule toutes les œuvres en entier. Hein? On parle ici du shirk majeur. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith al-Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, dans le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je suis celui qui n'a besoin d'aucun partenaire et qui n'accepte la part de personne d'autre. Hein, c'est-à-dire si quelqu'un a associé avec Allah des partenaires dans l'adoration, qu'il a fait pour Allah des adorations et pour d'autres que Allah en même temps, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je n'ai pas besoin de ces adorations-là. Quiconque a fait une action dans laquelle il m'a associé avec quelqu'un d'autre, eh bien, je le laisse lui et ceux qu'il a offert à d'autres que moi. Hein? Ou à d'autres avec moi. Donc, et dans une autre narration, il dit: je m'en désaveux. C'est-à-dire, je n'en veux pas de cette œuvre-là. Et je la laisse à celui pour qui il m'avait associé. Et le cheikh il explique par rapport à ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des œuvres que les œuvres qui ont été faites purement et exclusivement pour son visage à lui seul. Et aussi, il faut que ces œuvres soient en accord avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il explique que par rapport à cette adoration qui est offerte à autre que Allah, hein, eh bien la personne qui offre des adorations à autre qu'Allah et qui se soumet et qui adore des créatures en dehors d'Allah, eh bien il aura détruit son tawhid proportionnellement avec les œuvres d'adoration qu'il a offert à autre que Allah. Donc soit qu'il le fait beaucoup ou qu'il le fait peu. Mais comme on a expliqué déjà, c'est pas la quantité non plus qui détermine si ses œuvres sont vaines ou non. Du moment que la personne en question a commis un acte de shirk, eh bien ça annule toutes ses œuvres. S'il le fait beaucoup, s'il fait beaucoup de shirk, eh bien c'est juste il rajoute à ses égards, à son égarement. Mais c'est une fois, ça suffit pour détruire toutes les œuvres d'une personne. Allah al-musta'an. Ensuite, le Cheikh il dit, il cite une autre citation d'un autre savant qui est Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari, la ilaha illallah. أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم قال وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة وإنما يكون علما إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. Donc l'imam al-Bukhari, le sheikh al-Bukhari, il dit La ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Donc il explique al-Bukhari que cette parole, elle implique que on doit nier complètement qu'il puisse y avoir une divinité quelconque ou quelque chose qui soit adoré, qui aurait un droit à cette adoration-là ou qui mériterait cette adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala, al-malik al-malik al-azam. Donc al-malik c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le roi, le souverain suprême. Et il dit ensuite que cette science, c'est la plus grande forme de rappel que quelqu'un peut faire pour être sauvé des malheurs du jour de, de l'heure du jugement dernier et de la résurrection. Et il dit que cela ne sera une science que si c'est bénéfique. Et ce ne sera bénéfique que si on l'a mis en application et qu'on s'y soit soumis, hein, et qu'on ait appliqué ce qui est impliqué par cette parole. Sinon, c'est de l'ignorance pure. Et ici, le Cheikh, il explique premièrement l'i'rab de la ilaha illallah. Et il dit que la ilaha illallah, donc ici, c'est un petit peu de connaissance, ça prend un peu de connaissance et compréhension de la grammaire arabe. Donc si quelqu'un n'a pas étudié la grammaire arabe, il y a des passages ici que il ne va pas, peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave, parce que si on comprend le sens, ça peut quand même nous aider à avoir une meilleure compréhension de ce que signifie la ilaha illallah. Il dit le Cheikh, la Cheikh Al-Fawzan, il dit la ilaha illallah. Donc il fait l'analyse grammaticale, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-i'rab. Al-i'rab, c'est l'analyse grammaticale. C'est-à-dire de déterminer dans une phrase le rôle grammatical de chaque partie qui fait partie de cette phrase, de chaque mot qui est utilisé dans la phrase. Donc quand on fait ça, ça s'appelle en arabe al-i'rab. Et donc ici il fait l'i'rab de cette phrase qui est la ilaha illallah. Et il dit premièrement la, c'est la annafiyatu lil jins. Ça c'est une des utilisations de la dans la langue arabe. Et bien entendu, il y a des termes qui peuvent être utilisés parfois pour traduire les termes de grammaire en français. Il y a certaines personnes qui aiment traduire les termes grammaticaux en français. Moi personnellement, je préfère les laisser tels quels en arabe et de comprendre, d'essayer d'apprendre la grammaire en arabe directement et de comprendre qu'est-ce que ça implique. Hein? Mais bon, pour ça, c'est clair qu'il faut étudier l'arabe elle-même. Bon, là, nafiyatu lil jins, ici, c'est lorsqu'on veut nier quelque chose, mais qu'on ne veut pas nier une chose en particulier, mais qu'on veut nier une catégorie de choses. Hein? On veut nier une sorte de choses. Donc c'est ça qu'on appelle la nafiyatul jins, c'est-à-dire c'est une forme de la qu'on utilise pour la négation, mais pas la négation d'un élément spécifique ou un élément en particulier, mais une catégorie d'éléments, une sorte d'éléments. Hein? Donc ici, la nafiyatul jins, c'est dans le but de nier quoi? De nier al-ilah. Hein? La ilaha. Et donc quand on dit la ilaha, ilah, c'est un mot en arabe qui veut dire ma'boud. Hein? Tout ce qui est adoré. Toute chose adorée, on l'appelle en arabe ilah. Que ce soit une chose qui est adorée en vrai ou une chose qui est adorée dans le faux. Donc si quelque chose est adoré dans le vrai, on peut l'appeler ilah. Et si c'est quelque chose qui est adoré dans le faux, comme une idole, on peut l'appeler ilah aussi. Donc la négation ici, c'est une négation de tout ce qui est adoré de façon générale. Donc on appelle ça ici la nafiyatu, hein, nafiyatu lil jins. Et il fait cela, il est utilisé de la même manière qu'on utilise inna en arabe. Hein? Et quand on utilise inna en arabe, eh bien, on remarque qu'il agit d'une façon très particulière. Par exemple, si je dis, je fais un cours de grammaire, si je dis par exemple, Allahu ghafurun, hein, Allahu ghafurun. D'accord? Donc, Allahu, il est marfou avec la dhamma, Allahu. Et ghafurun, il est marfou aussi avec le tanwin, deux dhamma, hein, ghafurun. Parce qu'il est indéfini. Tandis que Allah, il est défini, donc il prend une dhamma seulement. Donc, Allahu ghafurun. Si je mets inna devant, Allahu ghafurun, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant ça va changer. Donc ça va sur Allah, inna Allah, Allah on l'appellera ism. Le ism de inna, c'est Allah, lafzul jalala. Et il va prendre une fatha. Donc on va dire inna Allah à cause de inna. Depuis qu'on va mettre inna devant, Allah va prendre une fatha à la fin, il devient mansoub. Lafzul jalal devient mansoub. Et ghafour, il reste avec la dhamma. Inna Allah ghafourun. Hein? Inna Allah ghafourun. Et puis, comme on voit souvent dans le Coran, Inna Allah ghafourun rahim. Oui, c'est ça. Inna Allah ghafourun rahimun. D'accord? Donc, la nafiyatul jins, il agit de la même manière que inna. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre le mot ilah mansoub. Donc tu vas dire la ilaha, il va prendre une fatha sur le ha, la ilaha. Mais comme vous avez vu par exemple quand j'ai dit Allahu ghafurun, hein, Allah, en français on pourrait dire que c'est le nom, puis Ghafurun, ce serait l'adjectif. Hein? C'est qu'est-ce qui décrit, hein, qui, c'est l'adjectif qu'on appelle en français. Et quand on met Inna devant, ça devient le ism, et Ghafur devient le khabar. Donc là, ilah, c'est le ism de là, et on voit qu'il n'y a pas de khabar. Le khabar, il est enlevé. Et tout ce qu'on voit à la suite, c'est illallah. Mais il manque quelque chose. Entre ilah et illa, il manque quelque chose qui est sous-entendu. Il n'a pas été dit parce qu'il est sous-entendu. Et les Arabes, ils font ça dans la langue arabe. Souvent, ils enlèvent des paroles qui sont sous-entendues parce que leur sens est clair. Qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est déjà clair et connu, donc ils ne le disent pas. C'est sous-entendu. On dit que c'est le taqdir, hein, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-muqaddar. Qu'est-ce qui est muqaddar? Ça veut dire c'est sous-entendu. Donc le khabar, il a été mahzouf ici. Il a été enlevé. Et qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est que la ilaha, le khabar, c'est haqqun. La ilaha haqqun illallah. C'est ça le khabar qui est enlevé, c'est haqqun, ou bien bihaqqin, avec le ba, harful jar. Donc si tu le mets haqqun, il est marfou parce qu'il est le khabar de inna, et le khabar de la nafiyatul jins, il est toujours marfou. Donc la ilaha haqqun. Et si tu le mets avec le ba, mais le ba c'est un harf jar, donc il va prendre une kasra. Bihaqqin. La ilaha bihaqqin illallah. Et là, ça donne la signification complète du terme la ilaha illallah, hein, qui signifie que rien ne mérite d'être adoré, parce que ilah, ça veut dire le ma'boud, qu'est-ce qui est adoré. Donc il n'y a rien qui est adoré en vérité excepté Allah. C'est ça la vraie signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est adoré en vérité et qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'interprétation, ou bien plutôt la vraie signification de la ilaha illallah. Et cette signification-là, elle est supportée non seulement par des explications des ulama, comme on l'a expliqué souvent, mais c'est supporté cette interprétation-là par des dizaines et des centaines de versets dans le Coran qui clarifient ce sens-là. Et on en a déjà parlé déjà dans les cours précédents. Hein? Parce que ça implique que seul Allah mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah doit être rejeté. Parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Et il y a des gens parmi les gens de l'égarement qui ont essayé d'interpréter la ilaha illallah de d'autres façons. Et qui ont dit par exemple que le taqdir, qu'est-ce qui est sous-entendu dans le témoignage de la ilaha, au lieu de mettre haqqun, la ilaha haqqun illallah, eux ils disent la ilaha mawjoudun illallah. Et qu'est-ce que ça implique si tu dis ça de cette manière? Ça impliquerait que il n'y aurait pas de divinité, ou il n'y aurait pas de chose adorée qui existe excepté Allah. Hein? Il y en a qui disent même la mawjouda illallah. Il n'y a rien qui existe excepté Allah. Ou bien la ilaha mawjoudun illallah. Et ça, c'est totalement faux, et même que c'est vraiment une interprétation qui implique que tout ce qui serait adoré en dehors d'Allah serait Allah. Et ça, c'est ça que on a expliqué déjà, que c'est la aqida de wahdatul wujud. Certains parmi les égarés, parmi les hérétiques, parmi les soufis, il y a comme Ibn Arabi, par exemple, qui ont développé cette innovation et cette croyance d'égarement, qui est une forme de panthéisme, comme chez les hindous, hein, qui croient que tout ce qui existe est Allah. Et ils ne font pas de distinction entre le créateur et la créature. Ils disent tout ce qui existe est Allah. Et le créateur et la créature, yani c'est Allah. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc ça équivaut à de l'athéisme. Ça équivaut à nier l'existence distincte et spécifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans cette croyance-là, on ne peut plus distinguer entre qui est le créateur et qui est la créature, puisque pour eux, le créateur et la créature sont une seule et même chose. Donc tout ça, c'est du kufr et du shirk, hein. Et les chrétiens, eux, ont dit que Jésus était un avec Dieu ou avec Allah. Et ils ont dit que Allah s'est incarné en Jésus. Donc ça, c'est pour cette raison que Allah les a déclarés comme étant des kuffars dans le Coran. Donc si celui qui prétend que Jésus, Allah s'est incarné en lui ou est devenu un avec lui, et que ça c'est la cause de leur kufr ou une des raisons pour lesquelles ils ont commis du kufr et du shirk, que dire de celui qui prétend ça à propos de toutes les créatures qui existent dans l'univers? C'est un plus grand shirk encore, hein, comme les hindous, hein, quand ils prient à des statues. On demande parfois à des hindous combien de dieux ils ont, combien de divinités ils ont. Et ils répondent qu'ils ont des milliers de divinités différentes. Hein? Ils prient même à des animaux. Ils prient même à des vaches. Ils adorent des vaches, ils adorent des singes, ils adorent des rats. Ils adorent des éléphants. Toutes sortes de choses, ils adorent des choses comme ça. Ils prient à des êtres humains. Hein? Et quand tu leur dis... pourquoi vous adorez ces choses-là alors que c'est des choses créées? Ils disent, nous on n'adore pas ces choses-là telles que vous les voyez. On les considère uniquement comme étant des manifestations de Dieu. Pour eux, en réalité, Dieu est dans tout et tout. Donc, puisque pour eux, tout est Allah, donc pour eux, il n'y a pas d'idolâtrie là-dedans. Hein? C'est juste un autre aspect de Dieu qu'ils adorent. Puisqu'ils considèrent que tout est Allah, pas seulement les statues et les idoles, mais les voitures, les maisons, les arbres, le soleil, la lune, la terre, l'eau, la mer, hein, tout ça pour eux c'est Allah. Hein, c'est juste un point de focalisation pour se concentrer qu'ils utilisent comme étant un point de repère quand ils adorent la statue. Mais c'est pas pour dire que la statue c'est elle qui est Dieu exact elle-même. Et cette idée-là, c'est la même explication, hein, que se donnent les mouchriquines pour justifier le shirk qu'ils font. Hein? Donc c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui amène à l'égarement total. Et c'est une des plus grandes formes de kufr et de shirk. Et c'est ça que les prophètes d'Allah sont venus combattre. Et c'est ça qu'ils ont condamné. Toutes ces manifestations de shirk. Et donc, ça c'est ce qui prouve que l'explication qu'on a donnée, quand on dit que la ilaha haqqun illallah, c'est ça la vraie signification de la ilaha illallah, et c'est supporté par des versets dans le Coran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il explique que, en réalité, il y a beaucoup de divinités. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées. C'est la preuve qu'il y a des divinités, il y a beaucoup de divinités. Tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah sont des divinités. Mais est-ce qu'elles sont des divinités vraies? Non, elles sont des divinités fausses. Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 62 dans sourate Al-Hajj, lorsqu'il dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ceci, c'est parce que Allah est certes la vérité, tandis que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et Allah est certes le plus grand, le plus haut, le plus grand. Donc ça c'est la preuve, hein, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, peu importe qu'est-ce que ça peut être, hein. Même si ce que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, c'est des prophètes ou des anges, eh bien leur adoration est fausse parce qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Naam. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Ensuite, le cheikh il explique et il dit: وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف. Le cheikh il dit donc que cette connaissance elle est uniquement bénéfique si elle est accompagnée de soumission et qu'on agit selon ce que le témoignage implique. Et le cheikh Al-Fawzan il explique par rapport à ça et il dit: العلم ليس مجرد معرفة للأقوال ومعرفة للنصوص بل لا بد من العمل مع العلم أما علم بدون عمل فهذا لا ينفع بل هو حجة على صاحبه ويكون صاحبه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وهو عالم لا ينفعه علمه لأنه لم يعمل به. Donc ici le cheikh il fait un rappel important, il explique que la connaissance c'est pas seulement la connaissance des paroles ou la connaissance des textes, de connaître les hadiths ou les versets, hein, mais il faut absolument mettre en pratique et appliquer et agir selon la connaissance qu'on possède. Si c'est une connaissance qu'on a mais qui n'est pas mise en pratique et qu'on n'applique pas, alors ce ne sera pas bénéfique. Même que cette connaissance-là va être un argument contre toi au jour de la résurrection. Hein? Et la première personne qu'on va brûler dans le feu au jour de la résurrection, c'est la personne qui avait du savoir, qui connaissait la religion, mais qui ne l'a pas mis en pratique. Ça ne lui sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas pratiqué. Donc si quelqu'un, par exemple, hein, il connaît la ilaha illallah, puis après il va faire le shirk, hein, et il adore d'autres que Allah, et il prie à des statues, ou il prie à des tombes, ou à des morts, eh bien ça ne lui servira à rien au jour de la résurrection. Le cheikh il dit: فَمَنْ عَلِمَ مَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وأن يخلص العبادة لله تعالى ولا يدعو غيره. Le cheikh il dit donc: quiconque a connu la signification de la ilaha illallah, eh bien il est obligatoire pour lui de l'appliquer et d'agir selon ce que ça signifie, et il doit donc purifier son adoration pour Allah seul et n'invoquer personne d'autre que lui. Donc ça c'est extrêmement important. Et le cheikh il explique que, donc il a expliqué ça, et ça aussi ça répond en même temps à ceux qui interprètent le témoignage de la ilaha illallah et qui disent la ilaha illallah ça veut dire la khaliqa illallah wa la raziqa illallah, hein? Il n'y a pas de créateur excepté Allah, ou il n'y a pas de personne qui donne la subsistance excepté Allah. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui se limite uniquement à la connaissance de la rububiyya, hein, du fait que Allah est le Seigneur, que c'est lui le seul créateur, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et c'est clair que cette connaissance-là, elle ne suffit pas à elle seule de faire en sorte que quelqu'un soit musulman ou que quelqu'un soit croyant, puisque même les mouchriquins de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient, hein, en la rububiyya, hein, et il disait que Allah est le seul créateur et celui qui donne la subsistance, et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam et ça ne les a pas fait rentrer dans la foi. pour que quelqu'un soit vraiment considéré croyant et qu'il rentre dans l'islam, il faut qu'il accepte que l'adoration soit exclusivement vouée à Allah seul. Et non pas seulement reconnaître que c'est lui seul qui est le créateur et le pourvoyeur. Pourtant, beaucoup de musulmans à notre époque se limitent à cette compréhension-là et pensent que la rububiyya, c'est ça le plus important dans la foi. Et pourtant, non. Hein? Certains prêcheurs aujourd'hui, hein, c'est ça qu'ils enseignent. Et vous voyez ça, par exemple, chez les dans les paroles de certaines personnes parmi les islamologues, quand ils parlent de la ilaha illallah, c'est comme ça qu'ils en parlent. Hein? Et par exemple, j'en ai entendu beaucoup, quand tu regardes leurs explications de la ilaha illallah, c'est ça qu'ils donnent. Parmi les gens qui parlent de la religion aujourd'hui dans les réseaux sociaux, que ce soit des gens comme Tariq Ramadan, ou bien des gens comme le président de l'Institut pour l'Islam de France, Ghalib Ben Sheikh, sa traduction du témoignage, c'est la même chose. Il n'est de Dieu que Dieu. C'est comme ça qu'ils traduisent le témoignage. La même chose. De même que l'autre, comment il s'appelle? En tout cas, il y en a plusieurs comme ça. Quand vous regardez comment ils traduisent la ilaha illallah et comment ils l'expliquent, vous voyez que pour eux, hein, c'est la rububiyya qui est mise de l'avant. Et ils disent, il n'est de Dieu que Dieu. Hein, ou il n'est de Dieu que Dieu, ça veut rien dire en réalité. Ça n'a pas le sens réel de ce que signifie La ilaha illallah, qui est La ma'bouda bihaqqin illallah. Non. Parce que ilah, c'est al-ma'boud. Hein? C'est important de bien le comprendre. Et il dit ensuite, Qultu. C'est-à-dire, le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ensuite, وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى لا إله إلا الله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلاً منهم. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, je dis, après avoir donné des citations des ulama, il dit lui-même, ceux-là, parmi ceux qui sont venus plus tard dans la Umma et qui prétendent à la science, ils ont ignoré la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire le vrai sens de la ilaha illallah. Et ils ont renversé la réalité de sa signification vers la signification du tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. De dire que Allah, c'est le seul qui est le Rabb, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui donne la subsistance. Hein? Et ils ont dit que al-ilah huwa, hein, la, quand ils disent la ilaha illallah, ils disent huwa yani al-qudra ala al-ikhtira, c'est-à-dire la capacité de créer. Et donc ils ont dit que la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah. Hein? Donc ils ont affirmé ce que la ilaha illallah a nié comme shirk, dans le sens que ils ont permis d'adorer d'autres que Allah parmi les tombes, parmi les hommes pieux, parmi les saints, hein? Et ils ont affirmé donc le shirk qui est nié par le témoignage de la ilaha illallah, et ils ont renié ce que le témoignage affirme comme exclusivité de l'adoration à Allah seul et purification de notre adoration pour Allah seul. Et ça, c'est par ignorance de leur part. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, في عقائدهم التي ألفوها على قواعد المنطق وعلم الكلام يفسرون التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن الإله هو القادر على الاختراع فلا إله يعني لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله وهذا هو توحيد المشركين لأنهم يعترفون به ولم ينفعهم فهذا التفسير تفسير باطل ليس هو معنى التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة أما الإقرار بالربوبية فهذا لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله تعالى. Donc le cheikh il explique que les croyances de ces gens-là qu'ils ont écrit dans leur livre est basée sur les règles de la dialectique. Des règles de la dialectique aristotélicienne. Les règles de la logique d'Aristote et des règles de théologie spéculative basées sur la raison. C'est comme ça qu'ils interprètent le témoignage de la ilaha illallah en se basant sur des théories philosophiques établies par des kuffars, les philosophes grecs et autres. Et c'est pour ça qu'ils interprètent le tawhid comme étant l'affirmation et la déclaration que Allah c'est le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir. Et pour eux, Al-Ilah, ça veut dire celui qui a la capacité de créer. Donc quand ils disent La Ilah, ils disent pas que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Eux, ils disent que ça veut dire qu'il n'y a personne qui a la capacité de créer excepté Allah. Et il n'y a pas de doute que ça, c'est le tawhid des mushrikins. C'est-à-dire, c'est le tawhid que même les mushrikins affirmaient. Parce qu'ils croyaient et ils affirmaient, ils reconnaissaient que Allah est le seul créateur. Et ça ne leur a pas servi à rien du tout. Et ça ne les a pas fait profiter en quoi que ce soit par rapport à la foi et par rapport à Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a quand même déclarés comme étant des mushrikines et des kuffars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quand même combattus. Même s'ils croyaient que Allah est le créateur. Parce qu'ils continuaient malgré tout à adorer d'autres que Allah. Et à prendre entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs, pensant que ces intermédiaires et que ces intercesseurs avaient la capacité et le pouvoir d'intercéder pour eux auprès d'Allah ou de les aider auprès d'Allah. Et donc, tout ça c'est pour confirmer que... Leur compréhension du témoignage, la compréhension de ces gens de bid'a aujourd'hui, du témoignage de la ilaha illallah, c'est une compréhension qui est complètement erronée. Et malheureusement, cette compréhension-là, c'est la celle qui est enseignée dans la plupart des universités des pays musulmans. Dans les universités où on enseigne l'islam dans les pays musulmans, que ce soit Al-Azhar, ou dans d'autres pays de l'Asie ou les pays du Maghreb ou ailleurs, la plupart de ces pays-là où ils enseignent, où ils donnent des cours sur la religion musulmane et sur l'islam dans les universités, eh bien ils enseignent uniquement en réalité la philosophie. Et ils enseignent la croyance des sectes comme la secte des Asha'ira et des Maturidiyya et des gens de Bid'a. Et non pas la croyance de Ahl Sunnah et le Tawhid des messagers. Donc ça c'est triste. Et c'est pour ça que vous voyez que dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de da'wa. Il n'y a pas vraiment une da'wa qui est établie, qui est faite dans le but de... Quand je dis qu'il n'y a pas de da'wa, je dis pas que dans les pays musulmans actuellement, il n'y a pas de da'wa. Il y a de la da'wa. Hein, de la part des ulama de Ahl al-Sunnah et des tullab al-ilm de Ahl al-Sunnah, oui, il y a de la da'wa de ce côté-là. Moi, je parle en fait sur le plan des institutions d'enseignement dans les pays musulmans, des institutions d'enseignement comme les universités et les endroits où on enseigne la religion dans les pays, dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un effort qui est fait justement pour faire avancer la da'wa de ce côté-là, parce que ces gens-là, déjà en partant, ils pensent que la aqidah c'est quelque chose qui est basé sur la philosophie. Et ils n'enseignent de la religion et de la croyance que ce qui est basé sur ilmul kalam et la théologie spéculative des philosophes. Hein? C'est pas basé sur la révélation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de da'wah dans ce sens-là. Hein? C'est pas comme par exemple, si on regarde les ulama d'Ahl Sunnah, en Arabie Saoudite par exemple, là-bas, c'est peut-être un des seuls pays musulmans où les universités, leur programme d'enseignement de la croyance est établi sur la aqidah des salafs et sur l'enseignement du tawhid tel que les prophètes et les messagers l'ont enseigné. Et par conséquent, on voit que, par exemple, le ministère des affaires religieuses de l'Arabie Saoudite, eh bien, il publie constamment des livres sur le tawhid et sur l'enseignement du tawhid et la réfutation du shirk et la réfutation des innovations et des bid'ah. Hein, et il publie ces livres-là, des fois il les donne même gratuitement pour faire en sorte que la connaissance du tawhid soit propagée et que les gens puissent être éduqués dans la religion. Et que même les musulmans qui sont sur la bid'ah puissent justement être éclairés dans la religion, et que les non-musulmans qui ne connaissent pas l'islam puissent être renseignés au sujet de la réalité de l'islam. Tandis que dans d'autres pays musulmans, eh bien c'est pas ça qu'on retrouve. On retrouve pas d'efforts justement pour la défense du tawhid et le combat du shirk et contre le shirk et les formes et les manifestations d'idolâtrie qui existent dans beaucoup de ces pays-là malheureusement, et on ne voit pas non plus d'efforts de la part des ministères des affaires religieuses pour essayer de faire en sorte justement que la da'wa de l'islam prenne le dessus et prenne de l'avant, et qu'elle soit justement la parole d'Allah soit élevée. Et c'est ça qui est triste. Donc il y a beaucoup de travail à faire de la part des musulmans. Beaucoup de gens maintenant, ils se préoccupent sur des aspects superficiels des affaires de la dunya, mais ils oublient que la réelle évolution, la réelle avancement du monde musulman, c'est pas dans le fait de se concentrer sur ces aspects superficiels et matériels que le changement va venir, mais c'est plutôt en revenant à la bonne compréhension de la religion, en commençant par le tawhid, que ces choses-là vont changer. Hein? Parce que tout commence par la croyance. Hein? Et le reste, c'est uniquement une suite qui sont des conséquences de la croyance. Et beaucoup de gens ne réalisent pas ça, malheureusement. Ensuite, le cheikh il explique, il dit فهذا التفسير باطل. Cette interprétation qu'ils ont de dire que il n'est de Dieu que Dieu, c'est ça la signification. Ils disent la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu. C'est-à-dire il n'y a pas de créateur excepté Dieu. Il n'y a pas de Dieu excepté Dieu. Mais c'est normal qu'il n'y a pas de Dieu excepté Dieu, puisque c'est Dieu qui est seulement Dieu. Hein? Sauf que, yani, le sens du témoignage, c'est plus que ça. Le sens du témoignage, ça veut dire que les koufars, ils ont plein de dieux. Hein? Les mouchriquins, ils ont plein de dieux. Donc, de dire qu'il n'est de Dieu que Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Le témoignage signifie que les mouchriquins, ils ont beaucoup de divinités. Mais toutes ces divinités-là sont fausses. Et tout ce qu'ils adorent est faux. Excepté Allah. Parce que c'est seulement Allah qui mérite l'adoration et qui a droit à l'adoration. C'est ça le sens du témoignage. Et non pas de dire « il n'est de Dieu que Dieu ». Hein? Ça ne fait pas de sens de dire ça de cette façon-là. Ça n'a pas un sens réel. Ou bien plutôt, ce sens-là ne vient pas nécessairement opposer les croyances de shirk et d'égarement que les mouchriquins pratiquent. Et ça, c'est ça qui est important aussi de comprendre. Comme j'expliquais hier, un juif peut dire « La ilaha illallah ». Hein? Un juif, il dit « La ilaha illallah » déjà. Pourtant, il est kafir, mushrik. Hein? Et les chrétiens, ils disent « La ilaha illallah ». Hein? Même s'ils croient en la Trinité, ils disent « La ilaha illallah ». Et ça ne leur sert à rien, parce que dans la pratique et dans la réalité, ils ne mettent pas en application « La ilaha illallah ». « La ilaha illallah » implique que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu dois le considérer comme étant faux et tu dois le rejeter. Donc, leur interprétation du témoignage, quand tu dis qu'il n'y a de créateur que Allah ou il n'est de Dieu que Dieu, ça c'est pas la signification du tawhid. Le tawhid, c'est de rendre l'adoration exclusive à Allah seul. Mais en ce qui concerne d'affirmer la rububiyya ou de dire quelque chose qui est, c'est-à-dire que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur, ça c'est pas quelque chose qui sauve du châtiment d'Allah et c'est pas suffisant. Ensuite le cheikh il dit wa ankaru ma athbatathu min ikhlas al-ibadati lillahi jahlan minhum. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit innahum yunkiruna ala man da'ahum ila ifrad Allah bil ibadah wa tark ibadati al-qubur wa yahtajjuna bi'awa'id an-nas. Ay na'am, wa ma hum 'alayhi min al-'amal wa biwujudi 'ulama' lam yunkiru 'alayhim fa naqulu subhanallah. وهل العلم يؤخذ عن الناس أم من الكتاب والسنة لا سيما علم التوحيد فإذا كانت مسائل الفقه لا تؤخذ إلا بالدليل فكيف بمسائل التوحيد هؤلاء العلماء الذين لم ينكروا على ما عليه القبوريين هؤلاء لا يحتج بهم لأنهم علماء ضلال قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي المضلين أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين لأنهم علماء يحسن الظن بهم فيقودونهم إلى الضلال وإنما العلماء هم أهل الخشية وأهل العمل بالعلم وأهل التوحيد هؤلاء هم العلماء ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que ces gens-là, ceux qui adorent les tombes, qui adorent les saints et les tombes et les morts, et qui prétendent que ça c'est pas contraire à l'islam, quand on les appelle à rendre leur adoration exclusive pour Allah seul et de délaisser et d'abandonner l'adoration des tombeaux, eh bien, ils se basent sur les les traditions et les coutumes des gens et ce que les gens font comme pratique. Hein? Et il se base également parfois sur la présence de certains parmi ceux qu'ils considèrent comme étant des ulama et qui n'ont pas condamné leur pratique. Ils disent, regardez, il y a des savants qui font la même chose que nous. C'est comme certains égarés, comme par exemple le président pour l'Institut de l'Islam de France, quand il parlait du hijab, il a dit, le hijab, ça c'est nouveau, à l'époque, dans les années 60, je sais pas, il y avait soi-disant le cheikh de Al-Azhar qui, sa fille portait pas le voile, donc il dit ça, c'est la preuve que c'était pas obligatoire. Puisque si, pour lui, si c'était obligatoire, eh bien lui, il devait faire porter ça à sa fille, et s'il le faisait pas porter à sa fille, ça veut dire que c'était pas obligatoire. Depuis quand on se base sur des gens? C'est comme quelqu'un qui dit, la barbe c'est pas obligatoire, j'ai vu quelqu'un à la télé, il parle de l'islam, puis sa barbe est rasée. Donc parce que lui il rase sa barbe, ça veut dire que raser la barbe c'est permis. Hein? Subhanallah. Donc ça veut dire notre exemple et notre modèle à suivre, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le Coran et la Sunna, c'est qu'est-ce que les gens font. Hein? Et qu'est-ce que les gens font, c'est ça la référence. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est de l'ignorance, celui qui pense comme ça. Hein? Parce que les gens sont pas parfaits, les gens sont pas infaillibles. Les gens peuvent faire des péchés. Des gens peuvent faire des erreurs. Hein? Des gens peuvent suivre leur passion. C'est pas parce que des gens font ça que ça veut dire que c'est permis ou que c'est justifié. Donc notre référence à nous, c'est pas les gens, qu'est-ce que un tel ou un tel a dit ou tel personne qui fait des émissions à la télé sur l'islam ou qui parle de l'islam, que lui il a dit ça ou lui il a fait ça, ça veut dire que c'est la référence. Notre référence, c'est le Coran et la Sunna en premier. Et les ulama de Ahl Sunna qui craignent Allah et qui pratiquent leur science, pas ceux qui font le contraire de ce qu'ils enseignent. Si quelqu'un il enseigne quelque chose puis il ne le pratique pas, et bien dans ce cas-là, il est un mauvais modèle, un mauvais exemple pour les gens. Et les gens, par la suite, vont essayer de se justifier en le prenant comme exemple pour faire des péchés ou pour faire ce qui est haram. Et donc, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça qu'il doit prendre en exemple. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et le cheikh, il dit, justement par rapport à ça, donc il dit, il se base sur l'exemple de certains d'entre ceux qu'il considère comme étant des ulama. Et le cheikh, il dit, et nous, nous leur répondons, parce qu'ils disent, oh, ils n'ont pas condamné ce qu'on fait. C'est-à-dire, ces gens-là, ils les ont vus en train d'adorer les tombes, et ils leur ont pas dit, hey, ça c'est du shirk, arrêtez de faire ça. Ils les ont laissés faire. Peut-être même qu'ils sont partis avec eux pour le faire aussi. Alors, les gens ont dit, ah, mais si c'est comme ça, ça veut dire que ce qu'on fait c'est correct. Puisque eux, ils l'ont pas condamné. Hein? Et le cheikh, il dit, subhanallah. Est-ce que on prend notre science des gens de cette façon, ou bien du Coran et de la Sunna? En particulier la connaissance du tawhid. Il dit, quand c'est des questions de fiqh, on n'a pas le droit de prendre des choses qui ont rapport avec le fiqh, excepté avec la preuve. Alors si c'est le cas pour les questions qui sont reliées au fiqh, alors que dire des questions qui ont rapport avec le tawhid? C'est encore plus important de prendre la preuve. Et le cheikh, il dit, et ces gens-là qui n'ont pas condamné ce que faisaient les adorateurs des tombes. Hein? On ne peut pas les prendre, eux, comme des exemples ou un argument pour justifier qu'est-ce que les gens font, parce que ce sont des savants d'égarement. Ce ne sont pas des savants de la vérité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, ce que je crains le plus pour ma Ummah, c'est les imams égareurs. Parce que ce sont des gens que les gens pensent que ce sont des ulama, donc ils pensent du bien d'eux, alors qu'ils sont en train de les amener vers l'égarement. Donc, les vrais ulama, ce sont uniquement ceux qui craignent Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Donc, ceux qui ne craignent pas Allah et qui ne pratiquent pas leur science, ne mettent pas en pratique leur science, ce ne sont pas des vrais ulama. Et donc, les vrais ulama, ce sont les gens qui craignent Allah, qui appliquent la science qu'ils ont appris et qui sont sur le tawhid et la sunna. Ce sont eux les ulama, ce sont eux les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, ça c'est très important à comprendre. Malheureusement, on vit à une époque, les gens sont loin, hein, beaucoup de gens sont loin dans ce sens-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc il dit, فَأَثْبَتُوا, c'est ça, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, فَأَثْبَتُوا مَا نَفَتْهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَنْكَرُوا مَا أَثْبَتَتْهُ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ جَهْلًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Donc ils ont affirmé ce que La ilaha illallah a nié comme shirk, et ils ont nié ce que le témoignage de la ilaha illallah a affirmé comme purification de l'adoration pour Allah seul et par ignorance de leur part. Et ensuite, le shaykh il cite le verset, hein, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 2 dans Surat Az-Zumar, alors adore Allah en lui vouant un culte pur et en l'adorant de façon pure et exclusive. Donc ça c'est très important. On va s'arrêter ici donc, comme je dis, pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته